sagesse divine, ô sagesse divine.
Oui, alors ça c'est le paragraphe où nous étions,
oui,
non
nous étions.
Vous pouvez me dire le... Ah, évidemment, vous ne pouvez
non,
pas.
Non,
paragraphe combien?
C'est 17, celui
paragraphe 17, celui que nous allons lire. Hein.
18.
C'est bien. Tournez mes pages, je suis passé. Ah oui, je voulais vous dire qu'aussi, Lita avait trouvé un texte dans le contexte spirituel de l'Apocalypse, avec la vision du ciel, où l'agneau est au centre et il est la lumière. Et la lumière, c'est l'agneau. Et bien, dans le contexte spirituel, il y a à la strophe 8, 10, l'appel de l'âme pour le verbe époux, et que te voient mes yeux, car tu es leur lumière. Et il cite ce texte de l'Apocalypse, donc l'agneau comme lumière. Voilà. Donc, c'est intéressant, tous ces rapprochements, je trouve. Hein. Donc, alors, 17, oui. Oui. Je vous écoute.
Est-ce que c'est le Fils ou est-ce que c'est l'Esprit?
Par ta pureté, ô sagesse divine, beaucoup de choses se voient en toi et se voient en une, c'est ça? Bon, d'accord. Car tu es le dépôt des trésors du Père, la splendeur de la lumière éternelle, le miroir sans tache et l'image de sa bonté. Alors, dans le texte de la sagesse, et le Père Blois ne me contredira pas, du livre de la sagesse, de toute façon, on a une sorte de préfiguration de la sagesse incarnée, mais évidemment, c'est très ouvert. Hein, les pères de l'Église, après, vont relire cela et vont attribuer cette sagesse, l'assimiler au Verbe, hein, plutôt au Verbe. Hein. Mais évidemment, ce n'est pas exclusif. Hein, c'est ouvert. Comme, mais le fait qu'ils disent « Tu es le dépôt des trésors du Père », on ne peut parler de Père que vis-à-vis et par rapport au Fils. C'est clair. On ne parle pas du Père par rapport à l'Esprit. Le nom de Père, et vous trouvez ça dans la théologie de saint Thomas, c'est un nom relationnel. C'est une relation d'opposition, en vis-à-vis dans la Trinité. Hein? Donc c'est à cause de cela que j'ai parlé du Verbe et du Fils. Ça va? Voilà. No more. Bon, évidemment, hein, vous remarquez que c'est quand même pas facile tout ça. C'est clair. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on ne va pas mettre ça dans une catéchèse pour des enfants de 4 ans, ça c'est sûr. Ça me paraît un peu difficile. Hein. Bon, voilà. Hein, mais enfin, bon. Alors, vous ont été remises 2 feuilles. La feuille de ce que nous avons fait, vous auriez été heureux de la voir. Ça vous aurait évité de travailler, mais je suis heureux que vous ne l'ayez pas eue, car vous avez pu travailler. C'est bien. Et la feuille de ce que nous allons aborder maintenant. Ça va?
C'est laquelle? C'est la 5, plan 5.
Nous abordons le plan d'étude 5. Et vous aviez la plan d'étude 4 que nous avons travaillé finalement. Et dans le plan d'étude 4, il y avait les questions pour le plan d'étude 5, n'est-ce pas? Donc vous avez déjà les questions, les réponses, quoi, finalement, aujourd'hui. Hein. Donc bon, ça fait rien, hein. Ça va? Non, moi je m'en rappelle plus. Si,
non.
Si, non.
Lecture
personnelle de. Attendez, je déraille. Ah oui, mais moi j'ai plus de photocopie, alors je suis toujours sûr. Hein, tout ça. Je vous ai mis des petites orientations de lecture pour la deuxième partie d'Astrophe 3 sur le plan 4. Vous avez mis des choses intelligentes?
Certainement.
Oui.
C'est bien, vous répondez. Et donc, qu'est-ce que je vous proposais comme axe de recherche? J'ai plus cette feuille, j'ai tout donné. Comment ça se fait? Comment j'ai fait mon coup?
Les numéros 29 à 66.
Oui. Ah non, je vous ai mis vraiment une notice générale.
Oui.
Tiens, je l'ai perdu cette feuille.
Le ton inhabituel.
Oui. Oui.
Caractère personnel.
Non. Qu'est-ce qui est passé? Le ton inhabituel, oui, c'est ça. Il n'y en a pas un qui a 2 feuilles comme ça, non? Par hasard? Il n'y a pas un étudiant qui a 2 feuilles de ce genre?
Elle sera attentive à la personne qui est lue. Si vous voulez la main.
Non, ça va. C'est juste pour savoir si j'ai pas mis des. Oui, c'est gentil, merci. Oui, bah oui, j'ai mis quelque chose de général, oui, ça va. Merci. C'est bon. Mais non, je leur tirerai de l'ordinateur, mais je crois que j'ai fait une erreur de nombre, c'est tout. Et donc ça vous aide, ce que je vous mets? Bon, alors c'est pour vous alerter, nous passons à toute autre chose. Bon, nous avons quand même quelques paragraphes de transition. 27-28, d'accord? Quelques paragraphes de transition. Donc ça, c'est sur votre plan d'étude 4. Hein, j'ai plus... Après les cavernes du sens.
Saint-Jean de la Croix, il dit que notre intelligence, nos facultés ont une capacité, il dit, d'une certaine manière, une capacité infinie.
Quel paragraphe, s'il vous plaît?
22.
22, oui. Mm-hmm. D'une certaine manière, oui, infini, oui. Mm-hmm. Y así será, en cierta manera, su capacidad infinita, y así su sed es infinita. Oui, parce que ces cavernes sont creusées par l'Esprit Saint lui-même, qui, en se donnant, élargit à l'infini, en, d'une certaine manière, bien sûr. Il est quand même très nuancé. Enfin, il y a quelque chose qui est au-delà des possibilités de l'âme. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Au-delà des possibilités humaines, quoi. Bien sûr, oui. Bien, donc, nous avons ce sens. Alors, il va parler, dans les paragraphes 25-26, de don et d'onction. Il revient au mariage. Vous avez ça? Donc, l'âme reçoit... le oui entier de la grâce de Dieu et ses visites. Mais elle a encore besoin d'être disposée à l'union stable et définitive du mariage par les dons et les onctions de l'esprit. D'une certaine façon, on revient un petit peu là à ce qui était dit dans le mariage, dans le contexte spirituel. Ces dons éveillent l'impatience, la soif et la faim de l'âme. Ils attisent la faim. Il s'agit de se laisser oindre et de ne pas revenir en arrière. Je recite ça parce que c'est là que se fait l'articulation. Il s'agit de se laisser oindre et de ne pas revenir en arrière. Comme les jeunes filles choisies pour le roi Assuérus, pour être présentées au roi et recevoir son sceptre. Donc nous revenons à la reine Esther, hein, Esther 2:4, vous voyez ça? L'onction est significative du don d'esprit, de sa puissance de pénétration et d'affermissement. Hein, c'est un symbole biblique, l'onction des rois, l'onction des lutteurs, l'huile de la confirmation, tout ça. Donc, onction parfum. Et à partir de cette onction, paragraphe 27 à 28... voilà, il y a une rupture dans le commentaire. Ça fait choc, et nous avons une longue digression volontaire, plus d'une vingtaine de pages, de Jean de la Croix. C'est sur ce déclic de l'onction. Car, et c'est une étape délicate, les onctions sont délicates, et il va y avoir un avertissement à toutes les âmes pour qu'elles se laissent oindre, pour qu'elles ne se soustraient pas à ces onctions. Vous voyez la logique? Qu'elles fassent attention à ce qu'elles font en ne se laissant pas oindre et en quelles mains elles se remettent. Alors là, autre articulation. En quelles mains elles se remettent? Il va s'agir donc de la question des guides spirituels et de la grande question qui est sous-jacente à toute cette digression. La grande question pour Jean de la Croix, c'est qui a la primauté dans la vie selon l'esprit? Il faut que cette primauté revienne à l'esprit. C'est l'agent principal, comme il dira. Il doit conduire l'âme par où elle ne saurait aller. 3:28. Alors, nous allons avoir un Saint-Jean de la Croix extrêmement plein de sollicitude pastorale pour les âmes et plein de véhémence et de violence pour les mauvais guides spirituels. Et le Père Marie-Jeanne fait remarquer dans son commentaire de la Vie Flamme qu'on n'a jamais vu Jean de la Croix comme ça. Et c'est vrai. il est violent. Il le compare à la violence de Jésus à l'égard des pharisiens. Donc il y a une violence de Jean de la Croix. Pourquoi ? Il s'agit de voir cela. Quand on dit guide spirituel, c'est, j'allais dire, c'est pas seulement les prêtres, directeurs spirituels. Guide spirituel, c'est plus vaste. Hein. Ça peut être des mères supérieures et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est vaste. Hein. D'accord ? Lui, il a l'expérience de tout ça. Hein. Il est dans des milieux aussi bien masculins que féminins, dans la pastorale, dans les milieux religieux, il est dans tout ça. Hein. Donc il a une expérience de cela. Et pour lui, c'est grave. Donc il va nous présenter plusieurs obstacles ou ennemis de l'âme. Je ne sais pas si vous les avez repérés. Alors il y a l'âme elle-même, le démon, et le guide, le directeur, le guide spirituel. Donc trois ennemis potentiels. Bon, le démon, c'est un ennemi évident.
Déclaré,
tout à fait, vous avez raison. Un ennemi déclaré. Et pourquoi est-il un ennemi déclaré et en quoi, précisément ? Est-ce que vous avez repéré ça ? Vous n'avez pas lu ?
On a lu
juste un peu. Bah oui, bien sûr. Mais peut-être vous avez des souvenirs. Alors, voilà, c'est quand même assez important de voir que Jean de la Croix se situe à un moment précis de la vie spirituelle. Du passage du sens à l'esprit, passage de la méditation à la contemplation, c'est-à-dire le passage d'une prière maîtrisée, humainement parlant, à une prière qui est une connaissance confuse et générale, une connaissance amoureuse de Dieu, hein, qui n'est plus maîtrisée. Donc, et c'est à ce passage-là qu'il se situe. C'est la même chose dans la montée du Carmel et dans la nuit obscure. Donc il faut faire très attention quand on lit Saint Jean de la Croix et quand on transmet Saint Jean de la Croix. Il dit très nettement qu'il ne s'adresse pas aux commençants. Donc il faut en avoir bien conscience. Ça va ? Donc c'est une étape bien précise, il faut bien la situer, et bien situer son enseignement à cette étape-là, et ne pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Ça va ? Ça me paraît excessivement important. Bien. Donc, on a une première affirmation. Si l'âme cherche Dieu, Dieu la cherche avec infiniment plus d'amour. Donc, pour bien montrer que l'initiative première est divine. Paragraphe 28. Donc, c'est une première affirmation. Bon. Mais il dit quand même à cet endroit-là et au paragraphe 29, avec les trois aveugles, donc je parlais d'ennemis, c'est plutôt des aveugles, on conduit l'âme. N'oubliez pas, ça c'est une image aussi du XVIe siècle. Il y a des guides d'aveugles. Vous avez le fameux texte de la littérature espagnole, le Lazarillo de Tormes. Donc cet aveugle qui est guidé par un enfant, qui, ça c'est la littérature picaresque, qui lui fait avaler une saucisse, soi-disant une saucisse et une carotte trempée dans la sauce, dans la graisse, et qui lui fait mettre les pieds dans des trous pour le faire tomber, enfin qui est odieux quoi, avec lui. Et le guide d'aveugle, j'allais dire, c'est un grand thème de la littérature picaresque. Voilà, donc là, on a les guides d'aveugle aussi. Non, mais c'est très typique du XVIe siècle espagnol, ça. Hein? Voilà. Bon, donc, il s'adresse quand même à toutes les âmes qui cherchent leur bien-aimé. Hein? Donc, attention, hein? Pas seulement celles qui sont dans cette prospérité des onctions. Hein? Donc, il élargit un peu plus, là, hein? Vous voyez, hein? Alors, Jean de la Croix se pose comme un familier de Dieu, des mœurs de Dieu, de la condition de Dieu. Et il nous place devant le désir de Dieu. Qui est-ce qui guide ? C'est l'Esprit Saint. Il s'agit de ne pas lui faire obstacle. Et l'âme est aveugle. L'âme est une aveugle. Nous sommes aveugles. Ça, c'est vrai, oui. Nous marchons à tâtons. Nous sommes dans la nuit. Donc il y a trois aveugles qui peuvent la sortir du chemin, le maître spirituel, le démon et l'âme elle-même. L'âme elle-même, pourquoi ? On y reviendra, je vous ai mis toutes les réponses, hein, c'est pas très drôle.
En prenant l'initiative.
En se comprenant pas surtout, hein, elle ne se comprend pas. Et surtout, elle prend l'initiative. Enfin, elle veut garder la maîtrise de l'affaire. Hein, c'est ça. Bon. Bien. Alors, le démon, donc on l'a laissé. Alors, le démon, le travail du démon, dans ce passage précis, justement, de la méditation à la contemplation, c'est, comme il dit, de faire revenir sur la berge du distinct. C'est-à-dire qu'une prière maîtrisée, nous cherchons à comprendre, nous analysons, nous discourons, nous méditons, nous tirons des conclusions. Donc, c'est le distinct, hein, l'intelligence qui travaille, elle distingue. La contemplation, on ne distingue pas, c'est une connaissance confuse et générale, dit-il. Donc, c'est global. Et ce que fait le démon, c'est de ramener sur la berge du distinct. D'accord ? Bon, donc voilà. Alors, attardons-nous au maître spirituel, car il semble que vraiment Jean de la Croix lui réserve un traitement de choix. Hein ? Ouais. Donc, paragraphe 30 et suivant. Hein, c'est ça? Bon. Nous allons avancer, lire quelques passages quand même, parce que c'est quand même assez intéressant de les repérer. Nous allons lire 30 à 33. Voilà. Donc, nous avons les trois obstacles. On peut y aller ? Stanislas, tu veux y aller ?
En ce qui concerne le premier, il convient grandement à l'âme qui veut progresser dans le recueillement et la perfection de bien considérer à quelle main elle se confie, car tel est le maître, tel sera le disciple, ou comme on dit, tel père, tel fils. Bon. Qu'elle prenne garde que pour suivre ce chemin, au moins sur sa partie la plus élevée et même sur la plus ordinaire, à peine trouvera-t-on un guide accompli en tous les domaines indispensables, car il doit non seulement être sage et prudent, mais encore expérimenté.
Ah, sage, prudent, discret, la discrétion, discernement, d'accord ? Discernement des esprits. Mais il faut l'expérience. Ouais.
En effet, pour conduire quelqu'un dans la voie de l'esprit, encore que le savoir et le discernement soient essentiels, si le guide n'a pas l'expérience de ce qu'est un esprit pur et sincère, il ne réussira pas à faire cheminer l'âme dans cet esprit quand Dieu le lui donne, et même il n'y comprendra rien. C'est ainsi que de nombreux maîtres spirituels causent beaucoup de tort à bon nombre d'âmes, car ne comprenant pas les chemins de l'esprit ni sa manière d'agir, ils font habituellement perdre aux âmes l'onction des onguents délicats avec lesquels l'Esprit Saint les marque et les dispose progressivement pour lui. Ses maîtres les instruisent par des méthodes sans envergure dont ils ont usé eux-mêmes ou qu'ils ont lues par hasard et qui ne servent qu'aux débutants.
Rateros en espagnol, c'est des méthodes au ras du sol. Hein, c'est ça. Rampante.
Ne sachant guider que ces derniers, et plaise à Dieu qu'ils le sachent, ils ne veulent pas laisser les âmes aller plus loin que ces débuts et que ces méthodes fondées sur le raisonnement et l'imagination, bien que Dieu les appelle à passer outre. Ils font obstacle pour que les âmes ne dépassent jamais les possibilités naturelles et qu'elles n'en sortent pas, si bien que l'âme ne peut guère progresser dans ces conditions. Afin de mieux comprendre la situation des commençants, il faut savoir qu'en cet état, leur exercice est de méditer et de faire des actes fondés sur le raisonnement et l'imagination. Il faut alors donner à l'âme la matière nécessaire pour qu'elle médite et raisonne, et il convient que d'elle-même, elle fasse des actes intérieurs et qu'elle tire profit du suc et de la saveur sensible des choses spirituelles, afin que nourrissant ses tendances avec la saveur des choses spirituelles, elle se détache de la saveur des choses sensibles et se déprenne des choses de ce monde. Mais quand les tendances sont déjà...
Alors, c'est, le mot tendance n'est pas très juste, appétit. Là, bien que ce soit la meilleure traduction. L'appétit et l'appetito, le désir.
Mais quand les appétits sont déjà quelque peu nourris des choses de l'esprit et habitués à elles avec une certaine force et une certaine constance, Dieu commence alors à sevrer l'âme et à la placer dans l'état de contemplation, ce qu'il a coutume de faire rapidement pour certaines personnes, principalement dans la vie religieuse, parce qu'on y renonce plus vite aux choses du monde. Ces personnes adaptent à Dieu le domaine du sensible et ses attraits, et transposent leur effort au domaine de l'esprit, car l'action de Dieu en elles conduit bien à cela. Alors cessent les actes discursifs et la méditation qui sont le propre de l'âme, ainsi que les saveurs et les premières ferveurs sensibles. En effet, l'âme ne peut plus raisonner comme auparavant, ni trouver quoi que ce soit pour soutenir l'activité du domaine sensible qui reste dans la sécheresse, car tous ses biens sont en train de passer dans le domaine de l'esprit et n'appartiennent plus à celui des sens. Étant donné que par elle-même et selon sa nature, l'âme ne peut agir qu'au moyen du sensible, il s'ensuit que, à ce degré, c'est Dieu qui est l'agent et l'âme est le patient, car elle est seulement comme celui qui reçoit en qui l'on agit, tandis que Dieu est comme celui qui donne et qui agit en elle.
Hein, voilà, caractérisation de Dieu et de l'âme. Hein.
Il lui donne les biens spirituels dans la contemplation qui est à la fois connaissance et amour divin, c'est-à-dire connaissance amoureuse, sans que l'âme se serve des actes et des raisonnements naturels, car elle ne peut plus avoir recours à eux comme avant. L'âme doit donc alors être conduite d'une manière totalement contraire à la précédente. Avant, on lui donnait matière pour méditer et elle méditait. Maintenant, au contraire, il faut qu'on la lui retire pour qu'elle ne médite plus car elle ne le pourrait plus. Même en le voulant, et au lieu de se recueillir, elle se distrairait. Si elle cherchait auparavant saveur, amour et ferveur et les trouvait, désormais elle ne les désire plus ni ne les recherche. Car non seulement son empressement ne les lui ferait pas trouver, mais bien plus elle n'en tirerait que de la sécheresse. En effet, en voulant agir à l'aide du sensible, elle s'écarte de la paix et de la quiétude que secrètement son esprit est en train de recevoir. Ainsi, perdant l'un, elle ne gagne pas l'autre, puisque désormais, les biens ne lui sont plus donnés dans le domaine du sensible comme auparavant. On ne doit donc en aucune façon lui imposer la méditation, ni aucune activité qui lui procurerait saveur ou ferveur, car ce serait faire obstacle à l'agent principal qui est Dieu. Celui-ci, en secret et dans le calme, met peu à peu dans l'âme sagesse et connaissance amoureuse, en dehors de tout acte particulier, même s'il arrive parfois qu'il lui en fasse produire avec quelque durée. L'âme doit alors marcher uniquement avec une attention amoureuse à Dieu, sans acte particulier, se comportant avec passivité, comme nous l'avons dit, sans se créer d'empressement personnel, avec une attention amoureuse et résolue, pure et sainte, comme quelqu'un qui ouvre les yeux avec un regard d'amour.
Bien. Alors évidemment, hein, ce passage, là, cette entrée dans une prière contemplative qui laisse l'initiative à Dieu, lorsqu'on dit passivement, c'est sûr que le terme peut susciter des questions, surtout dans le contexte de la réforme catholique, hein, par rapport au protestantisme. Quand il y aura ensuite les questions de quiétisme au sujet de la quiétude, donc c'est sûr que c'est un enseignement de Saint Jean de la Croix qui n'est pas passé facilement. Mais il s'impose de changer de méthode. Il s'agit de recevoir selon Dieu, d'accueillir dans un silence intérieur, au-delà de l'activité sensorielle et intellectuelle, dans une solitude intérieure. Il y a une grande insistance chez Saint Jean de la Croix sur ce passage, dans la montée et ici, c'est clair. Ça, il faut vraiment en tenir compte pour situer la portée de son message. Ne pas le faire aller au-delà, bien sûr. Mais pour l'âme, il le dira ensuite, il y a un exode là, à vivre. Il y a un exode à vivre. Un exode à vivre pour l'âme, mais aussi pour le maître spirituel. Paragraphe 38. Enlève, ô âme spirituelle, guide-la, ô maître spirituel, etc. Hein? Bon, vous verrez ça. Hein? Donc, paragraphe 40-41, il revient à ses onctions, ses nuances, ses finesses. Et paragraphe 42-43, il nous montre que si l'artiste divin qu'est l'esprit agit dans ses onctions avec finesse et art, le maître spirituel, avec ses grosses paluches, ses grosses pattes, détruit cette œuvre. Donc, pour que je jette un tout petit coup d'œil, c'est page 1002 dans le seuil, 42-43. On a l'impression de quelque chose de pris sur le vif, quoi. Tellement c'est détaillé. Voilà. Oui, prenons 42-43.
Oh, comme c'est grave et très surprenant que le dommage ne se voit pas et que soit compté pour presque rien ce qui s'est interposé entre l'âme et les onctions saintes. En effet, le dommage est plus grand, la douleur et la souillure sont plus grandes que si l'on abîmait et détériorait beaucoup d'âmes plus communes qui ne sont pas en mesure de recevoir un émail si riche et si nuancé. C'est tout à fait comme si une main malhabile, barbouillée de couleurs vulgaires et grossières, un portrait de facture soignée et délicate. Le tort serait plus grand, plus important et plus dommageable que si cette main barbouillait de nombreux portraits plus ordinaires. Alors, cette main délicate, cette main si délicate qui était celle de l'Esprit Saint et que la main malhabile a dérangée, qui réussira à lui rendre sa place?
Alors remettre en place, lui rendre sa place, pardon, la main de l'Esprit Saint, pardon. 43.
Bien que ce dommage soit plus grave et plus grand qu'on ne peut l'exprimer, il est si courant et si fréquent qu'on trouvera à peine un maître spirituel qui ne le fasse subir aux âmes que Dieu commence à faire entrer dans cette forme de contemplation. En effet, combien de fois Dieu est-il en train de favoriser l'âme contemplative par quelque onction très délicate de connaissance amoureuse, sereine, pacifique, secrète, étrangère au domaine du sensible et à celui de la pensée, état dans lequel on ne peut ni méditer, ni penser à quoi que ce soit, ni goûter les choses d'en haut ou d'en bas, car Dieu occupe l'âme par cette onction secrète et l'incline à l'oisiveté et à la solitude.
Oisiveté, imaginez le terme. Oh, si, ouais. Oisiveté, c'est tout ce qui est plus péjoratif.
Et voici qu'intervient un maître spirituel qui ne sait que marteler et frapper les facultés comme le ferait un forgeron, car il n'enseigne rien de plus et ne sait que méditer. Il dira « Allez, renoncez à cette inaction qui n'est que paresse et perte de temps. Mettez-vous à l'œuvre, méditez et faites des actes intérieurs parce qu'il faut que vous y mettiez du vôtre. » Car tout cela n'est qu'illusion et niaiserie.
Alors, ce n'est même pas illusion, c'est alumbramiento, c'est illuminisme. Et on voit très bien le contexte de l'illuminisme andalou dans lequel Saint Jean de la Croix se trouve, qu'il combat d'un côté, hein, mais ce n'est pas pour tomber dans une vie spirituelle squelettique, enfin purement, hein, il défend l'expérience, quoi. On voit bien ce contexte. Donc on voit Jean de la Croix, ses souffrances en son temps. Hein. On devine aussi les souffrances de son œuvre par la suite. Hein. Ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Mais tout cela est croqué sur le vif dans la pastorale de son temps. Il y avait vraiment des milieux tellement dogmatiques qu'ils étaient hermétiques à l'expérience. Quoi. Hein. Il y avait des mouvements tellement... favorable à l'expérience, qu'ils ont tombé dans l'illuminisme. Donc, c'est un équilibre très difficile. Hein? Mais enfin, voilà. Alors, nous allons lire maintenant 46-47, donc là où il remet le guide spirituel à sa place, page 1004-1005. 46-47. Parce que là, c'est quasiment tu, j'allais dire, c'est quasiment agressif. Oh, Je sais pas, oui, si tu veux. Ah, ben, madame, oui.
46.
Oui.
Ceux qui guident de telles âmes doivent se dire que dans cette affaire, l'agent principal, le guide, le moteur, c'est l'Esprit Saint et non pas eux. Ils ne perdent jamais ces âmes de vue. Eux ne sont que des instruments chargés de leur indiquer la voie de la perfection, telle que nous la trace la foi et la loi de Dieu. Leur soin doit donc être, non de les plier à leur propre façon de faire, mais de bien examiner si eux-mêmes connaissent le chemin par où Dieu conduit chacune, et au contraire de les laisser en repos, en se gardant bien de les troubler. Qu'ils s'efforcent, selon la voie que Dieu tient sur elles, de favoriser leur solitude, leur tranquillité, la liberté de leur esprit. Qu'ils les mettent au large, en sorte que, dans les temps où Dieu les place en cette solitude intime, ils n'enchaînent ni leur sens, ni leur esprit à rien de particulier, soit extérieur, soit intérieur. Qu'ils ne se troublent, ni ne s'inquiètent nullement en se disant qu'une telle âme ne fait rien. Si elle n'agit pas, Dieu agit en elle.
Voilà, donc c'est un conseil négatif. Hein, et je pense que là, ce qui va suivre, là, c'est le conseil de la pastorale de Jean de la Croix, qui synthétise tout le projet de la montée du Carmel.
Que tout leur soin aille donc à la dégager.
Dégager. Pardon.
À la mettre en solitude et en oisiveté, sans lui permettre ni de s'attacher aux connaissances particulières, qu'elles viennent d'en haut ou d'en bas, ni de désirer les goûts sensibles, ni de s'appliquer à un objet intérieur quel qu'il soit. L'âme doit demeurer vide, en négation de tout le créé, en vraie pauvreté spirituelle. Elle n'a pour sa part rien d'autre à faire, suivant le conseil du Fils de Dieu. Si quelqu'un ne renonce à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Ce qui doit s'entendre non seulement du renoncement aux biens matériels et temporels quant à la volonté, mais encore de la désappropriation des biens spirituels, en quoi consiste la pauvreté d'esprit dont le Fils de Dieu fait une béatitude. Lorsque l'âme renonce ainsi à toute chose, qu'elle arrive à être vide et désappropriée, et nous l'avons dit, c'est tout ce que pour sa part elle peut faire, il est impossible que Dieu de son côté ne se communique pas à elle, au moins en secret et silencieusement. Cela est plus impossible qu'il ne l'est au rayon du soleil de ne pas donner sur un endroit bien découvert. Vois l'astre du jour qui se lève et vient frapper sur ta demeure. Si tu ouvres la fenêtre, il entrera certainement chez toi. De même, Dieu, qui ne dort point lorsqu'il s'agit de garder Israël, pénétrera dans l'âme vide et la remplira de trésors divins.
Début de 47.
Dieu est comme le soleil. Il luit sur les âmes pour se communiquer à elles. Leurs guides doivent donc se borner à les mettre dans les dispositions convenables, conformément à la perfection évangélique, c'est-à-dire dans le dénuement et le vide du sens et de l'esprit. Mais qu'ils ne passent pas plus avant et ne pensent pas à édifier. Cela, c'est l'office du Père des Lumières, de qui descend toute grâce excellente et tout don parfait. Parce que, comme dit David, si le Seigneur édifie lui-même la maison, celui qui l'a construit travaille en vain, il est l'artisan. Il élèvera dans chaque âme l'édifice surnaturel il lui plaira.
Il est l'artisan surnaturel, il édifiera il surnaturellement en chaque âme. Hein, c'est la répétition.
Pour toi, dispose en elle l'édifice naturel en anéantissant ses opérations et affections naturelles qui ne lui donnent ni force ni capacité pour l'édifice surnaturel, mais qui nuisent au lieu d'aider. Voilà ton office. Celui de Dieu, comme dit le sage, est de diriger la marche, c'est-à-dire de la conduire au bien surnaturel par des voies et des moyens inconnus à l'âme et à toi-même. Garde-toi donc bien de dire « elle n'avance pas puisqu'elle ne fait rien ». Et moi, je te dis que s'il est vrai qu'elle ne fait rien, je te prouverai que précisément, elle fait beaucoup en ne faisant rien. Et encore, que si son entendement se dépouille des connaissances particulières, soit naturelles, soit spirituelles, de l'intelligence particulière et des actes de connaissance, il s'approche d'autant plus du bien surnaturel.
Bien, alors voyez, cette apostrophe remet le directeur, le guide spirituel, le maître spirituel à sa place. Et cette mission, finalement, d'accompagnement, c'est exactement l'effort de l'âme proposé dans la montée du Carmel, une disposition de réceptivité négative. C'est-à-dire qu'il faut faire place, désencombrer, hein, pour que le Seigneur puisse investir de sa grâce les puissances de l'âme par la foi, l'espérance et la charité. Donc, au fond, le maître spirituel est au service de ça, pas plus, pas moins, mais pas plus. Donc, il doit se situer à ce plan-là et ne pas enjamber sur l'œuvre de l'esprit, qui est une œuvre surnaturelle, et donc qui n'est pas une construction humaine. Hein. C'est ça. C'est le théologal, c'est le surnaturel, proprement dit, que défend Jean de la Croix. Hein. C'est ça l'intérêt, je trouve. Dieu agit en Dieu, et cette œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est lui l'architecte, c'est lui l'agent principal. Donc, on ne fait que seconder hein, la grâce, pas plus. Hein. Donc, c'est quand même une perspective extrêmement forte hein, dans la direction spirituelle. Nous allons jeter un petit coup d'œil maintenant au paragraphe 56 et 57. Il y a un élément supplémentaire qui va nous intéresser. Là aussi, il y a un dialogue assez cinglant avec le maître spirituel et son zèle intempestif. On pourrait aller jusqu'à 62, mais enfin, on ne va pas faire que ça. Vous voulez y aller, allez-y, par exemple.
Mais, dira-t-on, s'ils font fausse route, n'est-ce point par un bon zèle et parce que leur science ne va pas au-delà? Non, cela ne suffit pas à excuser les avis téméraires qu'ils donnent sans se mettre en peine de connaître la voie spirituelle par laquelle marche l'âme.
Alors, il va souligner dans ce paragraphe, c'est une conviction de Jean de la Croix, chaque âme a son chemin. Et vraiment, et l'Esprit Saint, qui est principe d'unité dans l'Église, est principe de la diversité aussi. Et il y a vraiment, il est le gardien, le défenseur de l'originalité spirituelle de chaque âme. Et la question, c'est que le maître spirituel veut faire l'âme à son image, à lui. Et là, ça va être féroce. Et oui, c'est le grand écueil hein, de la direction spirituelle. Du guide spirituel, de vouloir faire l'âme à son image.
Bon. S'ils ne la connaissent pas, qu'ils ne s'y entremêlent point maladroitement et qu'ils laissent ce soin à de plus entendus. Ce n'est pas une faute légère de faire perdre à une âme des biens inestimables et peut-être de ruiner à tout jamais sa voie par leur imprudent conseil.
Oui, téméraire, hein. Il y a carrément téméraire en espagnol. Donc c'est, oui, imprudent, oui.
Celui qui erre par sa faute là où il est obligé de voir clair, et chacun y est obligé en son office.
Ah, la question de la responsabilité, là.
N'évitera pas le châtiment, et ce châtiment sera en proportion du mal qu'il aura fait. Les affaires de Dieu doivent se traiter avec précaution et en sachant ce que l'on fait, surtout lorsqu'elles sont de cette importance, de cette sublimité. De fait, il s'agit d'un gain presque infini si l'on tombe juste et d'une perte presque infinie si l'on a le malheur de faire fausse route. Supposons que tu aies encore quelques...
sur l'apostrophe, donc c'est... Vraiment, c'est tout à fait unique dans l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Hein.
Supposons que tu aies encore quelques excuses à faire valoir, bien que je n'en voie point. À tout le moins, tu ne me persuaderas pas qu'il puisse en présenter de valable celui qui, sous de vains prétextes connus de lui, enchaîne une âme à une autorité. Cette conduite téméraire ne restera pas impunie.
Attendez, qu'est-ce que c'est votre traduction là ? C'est drôle ça. Celui qui, traitant une âme, s'occupant d'une âme, ne la laisse jamais sortir de son pouvoir. Là, c'est la question du pouvoir, Baudet. C'est griffe. Hein?
Une fois qu'une âme a fait progrès sous la continuelle assistance de Dieu dans le chemin spirituel, elle doit nécessairement changer son style et sa manière de procéder dans l'oraison. Il lui faut en conséquence une autre direction, un autre esprit. Tous ne sont pas en état d'éclairer tous les doutes qui se présentent dans la voie spirituelle. Quelqu'un ne peut prétendre savoir diriger et conduire les âmes dans tous les états de la vie intérieure. Peut-il se persuader qu'il est fourni d'une science universelle ou que Dieu n'a pas le droit de mener l'âme au-delà du chemin dont il a connaissance? Un ouvrier saura dégrossir un bloc de bois et il ne saura pas en tirer une statue. Un artiste saura le sculpter et il ne saura pas lui donner son dernier fini. Un autre qui saura peindre passablement ne saura pas mettre la dernière main au coloris. Le talent de chacun est limité, et s'il voulait l'outrepasser, il ruinerait l'œuvre qui lui est confiée.
Il est un petit peu 58 parce que le tu là est...
Toi qui ne sais que dégrossir, c'est-à-dire apprendre à l'âme à mépriser le monde, à mortifier ses appétits, ou tout au plus ébaucher, c'est-à-dire enseigner à faire de saintes méditations, et qui n'en sait pas davantage, comment conduiras-tu l'âme à la dernière perfection, au dernier coloris, alors qu'il ne s'agit plus de dégrossir et débaucher, ni même de donner un certain fini, mais de la mettre en état de recevoir l'action de Dieu? Nul doute que si tu l'arrives...
Rivée, au sens de tenir attaché, hein?
Nul doute que si tu arrives à ton enseignement qui est toujours le même, elle retournera en arrière, ou tout au moins, elle n'avancera pas. Quand sera-t-il, je le demande, de l'exécution d'une statue si l'on ne faisait jamais que marteler et dégrossir? Je veux dire, si l'âme en demeurant toujours à l'exercice des puissances, quand donc la statue s'achèverait-elle? Quand et comment Dieu lui donnerait-il le dernier coloris? Se peut-il que tu sois apte à remplir tous les offices et si consommé en tout genre que cette âme n'ait jamais besoin que de toi?
Bien, je crois que là, il y a des leçons à tirer, leçons d'humilité pour le maître spirituel et aussi... violence de Jean de la Croix contre des maîtres spirituels captatifs, possessifs. Jamais il la laisse sortir de ses griffes, de son pouvoir, de ses manières. Je crois que nous avons là un saint Jean de la Croix assez différent de celui que nous connaissons. Il est un peu douceâtre, là c'est pas du tout le cas, là, il est farouche. Et devant ce zèle intempestif, inexcusable, il est cinglant. Pourquoi? Ce qui lui importe, c'est que soit respectée l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu, et qu'elle soit menée à son terme. Que soit respectée aussi l'originalité de grâce de la personne. Il dira au paragraphe suivant,
Dieu conduit chaque âme par des chemins différents. A cada una lleva Dios por diferentes caminos. Donc, ces maîtres spirituels qui ont tendance à plaquer sur les âmes, à ne pas voir la diversité des chemins, l'originalité spirituelle, et qui sont possessifs, captatifs. Donc, je crois que là, on a vraiment d'excellentes pistes pour la direction spirituelle. Cette pédagogie, cette pastorale, théologale, vraiment au sens strict du terme, pour faire place à Dieu, elle est liée à une théologie de la grâce, à une pneumatologie. L'Esprit Saint, architecte des œuvres de Dieu, qui les mène à leur terme, à leur perfection, cette œuvre d'amour qui lui est attribuée. Les œuvres d'amour sont attribuées à l'Esprit, car il est comme cette cause finale. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu ? C'est lui qui mène les choses à leur terme. Alors, je vous dis, ce que dit le Père Marie-Eugène, tout ça, c'est bon comme évaluation. Le doux et pacifique Saint-Jean de la Croix, qui pendant des heures écoutait des pénitents scrupuleux, s'indigne. Il devient véhément. Nous ne lui connaissions pas cette force avec laquelle il flagelle et condamne l'ignorance présomptueuse et coupable des directeurs qui ne comprennent rien. J'arrive plus à me relire. Au signe d'oraison, oui. Bon. S'arroge cependant le droit de diriger des âmes et ne les laisse pas échapper de leur emprise. Ses accents évoquent ceux du doux Christ Jésus, maudissant les guides spirituels de la nation juive. Dans ces pages uniques, dans l'œuvre de Saint Jean de la Croix, il n'y a pas seulement de la vigueur, mais de la netteté. Bien, hein? Voilà. Alors, nous terminerons cette strophe tranquillement demain. Voilà. Nous reviendrons aux cavernes du sens, au sens de l'âme, hein, paragraphe 68-69. Mon dernière petite touche sur les aveugles. Voilà, 77-78, on lira un petit peu ça. Ça va, mais on est bien avancé, hein. On pourra passer ensuite à la strophe 4. Ah, on n'a pas écouté, ben on écoutera demain. Demain, ce sera pour demain. Il est 18h30. Donc, nous en tenons à la stricte justice. Donc, demain, vous écouterez à Marcio Prada.